À tous les fidèles auditeurs et auditrices de FM+, qui avaient l'habitude de nous écouter à cette heure-ci, l'équipe de la radio a la grande tristesse de vous faire part du décès de Georges Butet, survenu le 23 octobre dernier. Georges Butet, né le 30 août 1929, fut toute sa vie un artisan de paix, solidaire actif des causes humaines et animales, respectueux de la terre nourricière. Georges était homme à ancrer ses convictions spirituelles au cœur de son quotidien. Georges Butet animait depuis de nombreuses années cette émission hebdomadaire dédiée aux agriculteurs et agricultrices de la Confédération paysanne. Nous présentons nos sincères condoléances et pensées de soutien à son épouse et à sa famille. Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers auditeurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la ville de Montpellier et sous un aspect un peu particulier qui est celui du passé scientifique de Montpellier. Et nous allons commencer cette émission en parlant du square Planchon. Le square Planchon qui porte le nom d'un savant botaniste fameux à Montpellier qui s'est particulièrement illustré dans la lutte contre le phylloxéra. Alors il nous faut remonter un petit peu en arrière. Remonter en arrière pour nous souvenir que la ville de Montpellier a été une des premières en France à se relier avec sa voisine, Sète, par une ligne de chemin de fer. Alors vous allez me demander pourquoi commencer par le chemin de fer. Eh bien je vais laisser le suspense un petit moment et dans un moment vous comprendrez pourquoi nous parlons du chemin de fer. Donc les Montpelliérains se sont dit, ben finalement, puisque en 1830 a commencé la conquête de l'Algérie par la prise d'Alger, il y a certainement un débouché maritime à ouvrir, et pourquoi pas relier Montpellier à Sète, qui est son port, son débouché maritime naturel. Alors le parcours fait à peu près 27 kilomètres. Les Montpelliérains ont essayé de rassembler l'argent nécessaire pour faire cette ligne de chemin de fer. Bon, ils se sont un peu cassés la figure. À deux reprises, la société a été rachetée par une autre société et finalement, au grand dam des Montpelliérains, ce sont des capitaux parisiens avec des techniciens du chemin de fer anglais qui ont finalement remporté la mise et qui ont réalisé cette première ligne de chemin de fer qui a été inaugurée en 1839. Elle permettait de relier Montpellier à Sète en 2 heures et ça a très bien marché. Voilà. Et puis ensuite, le préfet a encouragé à ce qu'on fasse une ligne entre Montpellier et Nîmes. Alors, cette ligne s'est faite. C'est l'État qui faisait la ligne et qui ensuite l'a donnée en exploitation à une société privée. À noter qu'au départ, les premiers voyageurs descendaient dans le quartier des Eaux parce qu'on n'avait pas encore creusé le fossé entre l'esplanade et la citadelle qui permettait d'accéder à une nouvelle gare créée en 1844 sur un terrain donné par le conseiller général Monsieur Henri René. Vous connaissez tous la rue Clos René. Eh bien, tout ce terrain qui était en campagne, qui était pratiquement à la campagne, tout ce terrain appartenait à la famille René. C'est pour ça qu'il y a une rue Henri René derrière la gare et que la rue où se trouve l'hôtel Métropole, qui a dû changer de nom depuis, c'est un nom qui me plaît pas trop, je crois, Holiday Inn. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Cet hôtel se trouve dans la rue dite rue Clos-René. Donc en 1844, on crée la gare, la grande gare, qui est celle que nous connaissons, que nous appelons aujourd'hui la gare Saint-Roch. À ce moment-là, il faut de chaque côté créer des ponts. On va créer le pont de Latte pour pas enjamber, si vous voulez, que la route enjambe la voie de chemin de fer. Et de l'autre côté, un pont qu'on va appeler le pont de Sète. Alors quand je me suis toujours posé la question, mais pourquoi on appelle ce pont le pont de Sète alors qu'il mène justement à Latte et pas du tout à Sète? Ben, c'est tout simplement parce que c'était le pont qui était à côté de la gare de Sète, laquelle gare, première gare de Sète, se trouvait à l'emplacement de l'ancienne gare de marchandises au bout de la rue d'Alger. Et d'ailleurs, il avait fallu créer pour accéder à cette gare, cette première gare de chemin de fer de Montpellier, il avait fallu créer une rue qu'on avait appelée la rue d'Alger, tout simplement parce que quand on prenait la rue d'Alger, on prenait le train ensuite pour aller à Sète, et là on pouvait prendre le bateau pour s'embarquer pour Alger. Donc nous arrivons dans un contexte où le chemin de fer va permettre de faire des tas d'exportations, et en particulier de pouvoir exporter notre vin. Et c'est une des raisons pour laquelle, petit à petit, notre économie languedocienne va devenir une économie de la culture de la vigne. Car il faut dire que notre vin n'était pas excellent, juste avant la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. On avait un vin qui était de faible degré, qui ne supportait pas trop de voyager. Et là, avec le chemin de fer, d'abord le prix du transport s'abaisse, et ensuite le transport se passe mieux, et on a de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir à notre commerce du vin. Donc, développement de la vigne dans notre Languedoc, qui va petit à petit s'orienter vers la monoculture de la vigne. Alors, on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que ça a été une bonne chose, et comment se fait-il qu'on est tellement donné dans la monoculture de la vigne? Alors il y a une conjoncture économique qui est favorable, disons. D'abord, tout ce qui est filature et textile est en crise. Donc il y a des capitaux qui là vont être disponibles pour se réinvestir ailleurs. Et ensuite, on peut se poser la question, mais finalement, le blé russe arrive dans le midi de la France, ce qui fait que ça entraîne un désintérêt pour la culture du blé chez nous. La vigne se développe, et finalement, on va arriver à une situation où la monoculture de la vigne est quelque chose d'un peu dangereux. Et entre 1850 et 1856, on va en faire une première constatation, à savoir qu'il va y avoir une maladie qui arrive, qui s'appelle l'oïdium. Alors là, on est un petit peu embêté, et c'est un monsieur, un anglais, qui s'appelait Clyde, qui, pour protéger ses pieds de vigne des limaces, avait eu l'idée, pour chasser les limaces, de mettre du soufre autour de ses pieds de vigne. Et ça avait bien marché, et on s'était aperçu que ça permettait de lutter aussi contre ce champignon qui s'appelle l'oïdium. Alors, dans le midi, c'est monsieur Marès, qui avait une propriété à Launac, près de Fabrègues, qui va appliquer cette méthode, va utiliser le soufre pulvérulent, et comme c'est un homme intelligent, méthodique, il va mettre au point exactement la méthode, dire dans quelles conditions il faut mettre le soufre, quelles sont les quantités qu'il faut mettre, est-ce que c'est par beau temps, est-ce que c'est par temps de pluie, enfin, il règle tout ça. Et il est un petit peu considéré comme le premier sauveur de la viticulture, l'homme qui a trouvé la méthode pour lutter contre l'oïdium. Ce qui fait que, alors, je suis chimiste, excusez-moi, c'est peut-être pas une bonne chose de vous raconter ça, mais vous vous rappelez peut-être qu'autrefois, on avait des allumettes au soufre. Et quand on grattait une allumette au soufre, il y avait une espèce d'odeur qui nous prenait, qui faisait qu'on éloignait tout de suite l'allumette du bout de son nez, parce que c'était irrespirable. Et ce qu'on n'arrivait pas à respirer, qui nous piquait le nez, c'était de l'anhydride sulfureux. Eh bien, figurez-vous que quand on met du soufre pulvérulent dans les vignes, sous l'effet du soleil et de l'oxygène de l'air, ce soufre va s'oxyder précisément en anhydride sulfureux, qui est un très bon fongicide. Et c'est là le secret du traitement de la vigne par le soufre contre l'oïdium. D'ailleurs, ça va entraîner toute l'apparition d'une industrie du soufre dans le midi de la France. Et les anciens se rappellent peut-être qu'à Frontignan, il y avait une raffinerie du soufre réunie qui a fermé il y a quelques années. Mais ça s'était développé justement pour la viticulture et pour la lutte contre l'oïdium. Alors dans ce tableau un peu idyllique d'une viticulture devenue assez florissante, apparaît une maladie inconnue vers 1860 dans la région de Pujos et dans le Gard rhodanien. Il y a quelques pieds de vigne qui se sèchent, les feuilles sèchent, la deuxième année les sarments tombent et finalement la souche meurt carrément. Alors au début c'est une dizaine de souches, et puis après ça s'agrandit, ce sont des hectares entiers, et donc de 1860 à 1868, on comprend pas, on cherche, on se demande ce qui arrive, et même le préfet du Gard en 1868 convoque une commission qui va examiner des vignes malades, et ces gens-là ne trouvent rien. C'est alors que les gens du Vaucluse et de Provence se disent, mais finalement à Montpellier il y avait un bonhomme qui avait réussi dans la lutte contre l'oïdium, on va se tourner vers la Société Générale d'Agriculture de l'Hérault. Son président était Gaston Basile, le père du peintre, qui maintenant est peut-être moins célèbre que son fils. Elle était présidée par Gaston Basile, et il y a une réunion qui va se tenir le 6 juillet 1668 et où on examine la demande de la Société d'agriculture du Vaucluse. Et Gaston Basile termine son discours en disant « Si nous n'arrivons pas à juguler ce fléau, c'est un immense drap mortuaire qui s'étendra sur tout le midi de la France. » Et hélas, c'était une vision un peu prophétique, car cette crise, qu'on va appeler par la suite la crise du phylloxéra, va entraîner des bouleversements économiques, va coûter une fortune à notre pays et va complètement bouleverser la culture de la vigne. Alors il est décidé à cette réunion qu'une délégation va se rendre au château de Monsieur de Lagoye, à 2 kilomètres au nord de Saint-Rémy de Provence, et la délégation sera constituée du président de la Société d'agriculture de l'Hérault, Gaston Basile. On va prendre un scientifique qui s'appelle Jules-Émile Planchon. Il est professeur de botanique à la Faculté des sciences et directeur de l'école spéciale de pharmacie, donc c'est une bonne chose. Ensuite, Félix Sahut, qui est un viticulteur et horticulteur particulièrement expérimenté. Et voilà que nos trois hommes, un beau matin de juillet, exactement le 15 juillet 1868, prennent le train et vont se retrouver vers midi à Saint-Rémy-de-Provence, vont être reçus par M. de Lagoye et toute une délégation de viticulteurs. Et après un bon repas, ils vont commencer à examiner des vignes malades. Et alors l'idée est la suivante, on va demander à des ouvriers agricoles de déterrer qu'elles se souchent, et puis on va examiner leurs racines. Et on commence par voir des traces jaunes. On se demande ce que c'est. Et puis, le professeur de botanique et le chercheur universitaire qui est M. Planchon est venu avec des loupes, est venu avec ses boîtes prendre des échantillons. Enfin, c'est un scientifique. Et avec ses loupes, on regarde et finalement, tout d'un coup, il y en a un qui dit « Ah, mais il me semble que là, il y a un puceron. » Et puis après, on regarde « Mais non, mais c'est des dizaines de pucerons. »« Mais non, mais c'est des centaines. » Et puis c'est des millions de pucerons. En fait, toutes ces racines jaunes, toutes ces traces jaunes qu'on voit sur les racines, ce sont des pucerons et des pucerons. Voilà. Et alors, à ce moment-là, Gaston Basile s'exclame et dit « Mais ça y est, nous le tenons. Nous le tenons, l'ennemi, et c'est lui qu'il va falloir juguler. » Et dans son rapport, qui est rédigé par Gaston Basile au nom des trois membres de la société d'agriculture de l'Hérault, explique qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que le puceron était vraisemblablement à l'origine, d'autant plus qu'on voyait bien que certains de ces pucerons suçaient les racines. Ça a fait sensation, cette nouvelle, sauf à Paris, où un certain nombre de savants considéraient que ce n'était pas possible qu'un simple puceron soit à l'origine de la mort de milliers et de milliers de souches de vignes. Planchon est un scientifique, donc Planchon va prendre des échantillons de ce puceron, va faire des expériences. Alors une expérience assez simple, c'est de cultiver un pied de vigne dans un pot, hein, comme tous les pots de fleurs qu'on a, d'y introduire le puceron, de voir que le pied de vigne est en train de péricliter, et puis ensuite on peut, avec un produit chimique, détruire le puceron, puisque c'est juste un lopin, un bout de terre dans un pot, et de voir que le pied de vigne repart. Donc pour Planchon, il n'y avait aucun doute que ce puceron était à l'origine de la mort de tous ces pieds de vigne. Il va envoyer ensuite quelques exemplaires de ce puceron au docteur Signoret à Paris, qui est un entomologiste très important. Il faut dire aussi qu'il va en donner à son beau-frère, qui s'appelle Jules Liechtenstein, qui est aussi un entomologiste amateur, certes, mais réputé, formé à Berlin d'ailleurs. Un homme qui parle quatre langues, qui a des vignes en Espagne, enfin un type très... Très bien, ce Jules Liechtenstein, c'est son beau-frère. Hein. Et donc, Monsieur Signoret dit, mais ça fait partie de la classe des phylloxéra. Des phylloxéra, parce que il existe un phylloxéra pour la vigne, mais il existe aussi un phylloxéra pour le chêne. Enfin, c'est toute une race de pucerons. Et donc, cet insecte va passer à la postérité sous le nom de phylloxéra, tout court. Quand on parle du phylloxéra, en général, c'est de celui de la vigne dont on parle. Donc, l'étape suivante, c'était d'étudier ce puceron. Et là, on s'aperçoit qu'il est d'une complexité incroyable, car il y a une forme qui vit sur les feuilles, il y a une forme qui vit dans la terre, il y a des formes ailées qui vont se promener et propager la maladie de pied de vigne en pied de vigne, il y a des formes sexuées, des formes asexuées. Enfin, c'est d'une complexité incroyable. Et en même temps, on se demande... Comment lutter contre ce puceron? Alors, il va y avoir différentes expériences qui vont permettre de s'orienter, de comprendre un peu les choses. D'abord, il y a un pépiniériste qui se trouve à Floirac, qui fait la remarque suivante. Mais dans ma pépinière, j'ai des vignes françaises qui périclitent, mais j'ai des vignes américaines qui résistent. Ah, on dit, tiens, si la vigne américaine résiste, c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant, mais on va pas s'amuser à replanter tout le vignoble français en pied américain qui résiste au phylloxéra. C'est impensable. On verra que ça sera peut-être la seule solution plus tard. Alors on va essayer d'autres méthodes. Par exemple, on s'aperçoit que si on inonde des vignes, eh ben, on tue le puceron. 40 jours d'inondation d'une vigne en hiver, ça tue le puceron et on peut lutter contre le phylloxéra comme ça. On s'aperçoit aussi que le phylloxéra, ça c'est en 1875, quelqu'un fait la remarque que le phylloxéra ne touche pas les vignes qui sont plantées autour d'aigues mortes. Et oui, mais alors là on peut donner aussi l'explication, parce que le sable est un milieu très homogène et très compact dans lequel le puceron ne peut pas se déplacer. Et de ce fait... C'est ça qui va donner de la valeur aux vignes qui sont autour d'aigues mortes et qui est à l'origine de ce qu'on appelle les veines de sable, les listelles et autres, qui vont prendre de la valeur parce qu'ils ne sont pas atteints par le phylloxéra. Et puis on fait une demande aussi, l'État propose un concours. On en offre un prix, alors au début je crois que c'était une somme de 20 000 francs ou un truc comme ça, à toute personne qui trouvera une méthode pour lutter contre le phylloxéra. Alors là on a des propositions complètement farfelues, certaines le sont moins, mais enfin il n'y en a aucune qui marche. D'ailleurs on portera le prix à 300 000 francs pour qui trouverait la méthode, et on ne l'a jamais trouvé. Alors il y a un savant aussi qui est originaire d'Alès, qui s'appelle Jean-Baptiste Dumas, qui lui proposait carrément, avec des espèces de pales qui étaient des grosses seringues métalliques, d'injecter dans le sol du sulfure de carbone. Alors aujourd'hui, ça ferait hurler les écologistes et tout le monde d'ailleurs, c'est complètement aberrant. Alors ça a marché, on a traité 300 000 hectares comme ça, hein, avec, seulement ça coûte cher. Ça ne fait que retarder la chose parce que le puceron, il est partout dans la terre. Vous ne pouvez pas baigner toute la terre avec du sulfure de carbone. Donc en fait, quand vous injectez du sulfure de carbone au pied d'une souche, d'un plant de vigne, vous n'arrivez pas à atteindre toute la parcelle qui est autour de lui. Donc ça ne fait que retarder, ça coûte cher et c'est pas très très bon. Donc finalement, petit à petit, on se dit, ben, on va essayer la vigne américaine. Alors on plante de la vigne américaine et on s'aperçoit que ça donne un vin qui a un goût vraiment dégueulasse, mais excusez d'employer ce mot, les viticulteurs, les œnologues ont un mot beaucoup plus marrant, ils disent que le vin est foxé, c'est-à-dire qu'il a le goût d'une urine de renard. Alors je sais pas si vous avez réalisé ce que ça veut dire, mais enfin ça veut dire que c'est un vin qui est vraiment pas bon. Alors on se dit, bon, ben on va peut-être aller vers des plants de vigne hybrides. Alors on fait des croisements entre la vigne française qui est atteinte par le phylloxéra et la vigne américaine. Le résultat n'est pas meilleur. Donc finalement on se dit, ben, il y a peut-être une solution, c'est de planter dans le sol de la vigne américaine qui résiste au phylloxéra et ensuite de greffer dessus la vigne française. Il ne faut pas oublier que la vigne française est issue de 2000 ans de sélection, vous comprenez ? Par conséquent, c'est une vigne qui donne un vin, un raisin qui va donner du vin, un vin satisfaisant, alors que la vigne américaine est une vigne qui est plutôt sauvage. Et le premier qui va faire cette greffe-là, ça va être Gaston Basile dans sa propriété de Saint-Sauveur à Lattes. Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent le musée Henri Prade à Lattes, musée d'archéologie. Et bien en fait, c'était à l'époque la propriété de Saint-Sauveur où M. Gaston Basile va faire les premières expérimentations de greffage d'une vigne française sur un pied de vigne américain qui résiste au phylloxéra. Alors avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question, dans le fond, pourquoi la vigne américaine résiste au phylloxéra et pourquoi la vigne française ne résiste pas ? Eh bien, c'est tout simple. Figurez-vous que aux États-Unis, en Amérique du Nord, la vigne américaine a une racine qui se trouve dans une écorce très épaisse. Et le puceron a beaucoup de mal à percer cette écorce pour atteindre l'âme de la racine et sucer la sève. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre le puceron et la vigne. Lorsque certains, car c'est eux qui en sont responsables, certains pépiniéristes ont importé de la vigne américaine pour voir s'ils résistaient à l'oïdium, hein, à l'époque c'était leur préoccupation, ils ont importé aussi le puceron. Et le puceron s'est trouvé en présence de vignes américaines, mais à côté de vignes françaises, qui, elles, ont une racine avec une très fine pellicule autour. Donc le puceron, ça a été une alimentation de choix pour lui que de boulotter un petit peu la vigne française dont les racines ont une fine pellicule. Et c'est comme ça qu'à force de se développer et de sucer tellement la sève et les racines de la vigne française, les cèpes finissaient par mourir, d'autant plus que à chaque piqûre, ça créait une espèce d'ulcère et finalement les racines finissaient par pourrir. Voilà donc la raison pour laquelle le pied de vigne américain résiste au phylloxéra. Et alors, la question qu'on se posait, c'est est-ce que le fruit qu'on va récupérer, le raisin qu'on va récupérer, sera le fruit de la vigne française ou de la vigne américaine ? Est-ce que ce sera le greffon ou le porte-greffe qui va donner le raisin ? Eh bien, on s'aperçoit que une vigne greffée, française, greffée sur pied américain, est très productive et qu'elle donne du raisin lié au pied de vigne français. Donc c'était une victoire, et la première vigne qui a été ainsi greffée à Latte, ça faisait un peu rigoler, mais chaque ministre de l'agriculture qui était nommé dans un nouveau gouvernement de la République se devait en premier lieu de venir voir la première vigne greffée en France à Latte par Gaston Basile, si bien que les paysans du coin l'appelaient la vigne des ministres.
C'était Valdo Pellegrin, une histoire scientifique de Montpellier pour FM+.